présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. La Commission européenne demande la réouverture des frontières intérieures de l'UE. Bruxelles veut relancer le tourisme, un secteur sinistré par la pandémie. Nous ferons le point avec Angélique Bouin. 12,4 millions de Français au chômage partiel. Les chiffres augmentent, mais la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, estime que nous arrivons à un palier. Les explications d'Annabelle Grelier. L'écho d'après, un nouveau rendez-vous économique chaque mercredi dans notre journal de 18h. Ce soir, la question des réindustrialisations, un dossier préparé par Marie Viennot. Laetitia Avia dans la tourmente, la députée LREM est mise en cause par Mediapart alors qu'elle défend à l'Assemblée la loi contre la haine en ligne. Rosalie Lafarge a suivi les débats. Depuis 2 mois environ, les frontières intérieures de l'Union européenne se sont fermées les unes après les autres, car chaque pays a sa propre politique sanitaire pour enrayer la propagation du coronavirus. Situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale qui remet en cause le principe de la libre circulation au sein de l'UE. Alors que le déconfinement s'amorce en Europe, la Commission européenne a appelé aujourd'hui les États membres à rouvrir leurs frontières intérieures. Angélique Bouin, il s'agit d'une recommandation pour faciliter la reprise du tourisme.
De simples recommandations, en effet, de la part de Bruxelles, mais nous avons eu de très nombreux échanges avec les capitales et les professionnels du tourisme, a insisté en les présentant le commissaire Thierry Breton, en charge du secteur. La Commission propose que les États raisonnent par région et plus par territoire national pour permettre la libre circulation des touristes avec un système de zones inspiré de ce que fait la France, des zones touristiques transfrontalières qui seraient plus ou moins vertes ou rouges et qui pourraient s'ouvrir ou se fermer cet été selon leur situation sanitaire, le nombre de cas de Covid, le nombre de places en réanimation, la capacité en test. Et il faudra, insiste Bruxelles, que les applications de traçage soient compatibles entre elles. La Commission va mettre en ligne une carte interactive avec la situation en temps réel par région, en espérant donc que les États joueront le jeu et seront transparents. La Commission propose également aux États membres d'établir des règles sanitaires communes dans le domaine des transports ou pour la réouverture des hôtels et des restaurants, 1,50 m à 2 m de distanciation sociale dans les espaces de circulation ou encore un système de roulement pour profiter par exemple des piscines collectives. Nous avons élaboré cette boîte à outils car ce secteur du tourisme doit impérativement reprendre le travail, a insisté Thierry Breton, sous peine de voir des millions de PME faire faillite.
Et puis Angélique, la Commission a aussi précisé sa position sur un sujet sensible, le remboursement des billets d'avion annulés.
Oui, c'est une règle européenne. Les compagnies aériennes peuvent inviter leurs clients à accepter des avoirs, mais les citoyens de l'Union ont fondamentalement droit à un remboursement s'ils le souhaitent, a rappelé Margaret Vestager, la vice-présidente de la Commission. Charge aux compagnies de rendre les avoirs plus attractifs en proposant par exemple des bons remboursables s'ils n'ont pas été utilisés à l'issue de leur validité. Mais le consommateur européen doit toujours avoir le choix.
Angélique Bouin, correspondante à Bruxelles. La crise du coronavirus qui n'a pas apaisé les tensions internationales, elle les a même parfois attisées. Exemple aujourd'hui avec la visite en Israël de Mike Pompeo, premier déplacement diplomatique pour le secrétaire d'État américain depuis le début de la crise. Visite qui intervient à la veille de l'entrée en fonction du nouveau gouvernement israélien qui associe Benjamin Netanyahou et son ancien rival Benny Gantz. Mais Mike Pompeo en a profité pour revenir aux fondamentaux de la diplomatie américaine. Il s'en est pris violemment au régime iranien. Frédéric Mettezo nous appelle de Jérusalem.
Mike Pompeo n'a passé que 6 heures à Jérusalem. Il est descendu de son avion avec un masque aux couleurs du drapeau américain sur la bouche et effectivement, il a redit tout le mal qu'il pensait de l'Iran. Même durant cette pandémie, les Iraniens utilisent les ressources du régime pour fomenter la terreur à travers le monde. Des paroles similaires chez Benjamin Netanyahou qui compare Téhéran au coronavirus.
Il y a une deuxième plaie dans notre région que sont les agressions et le terrorisme iranien persistant. Donc je veux voir comment continuer ensemble à combattre et à faire reculer les agressions de l'Iran.
En revanche, sur les projets d'annexion d'une partie de la Cisjordanie, les Américains ont-ils encouragé Israël à prendre un contrôle rapide des colonies et de la vallée du Jourdain ou au contraire, demandé de temporiser? Là, pas un mot dans les discours. Mike Pompeo a plutôt rappelé le défi du coronavirus et la coopération nécessaire à l'international.
Vous êtes de super partenaires, vous partagez les informations. information, contrairement à d'autres pays. Et nous allons aussi parler de ce pays.
Pompeo fait allusion à la Chine et c'est là qu'il y a un contentieux entre les États-Unis et Israël. Les Américains reprochent aux Israéliens de monter des partenariats économiques stratégiques avec Pékin.
Emmanuel Macron a présidé aujourd'hui le premier conseil des ministres depuis le début du déconfinement. Le président a fixé un cap au gouvernement pour mener à bien le lent retour à la normale. Rappelons qu'avec près de 27 000 morts, la France est le quatrième pays au monde le plus endeuillé par le Covid-19. Ce matin, Pierre Neveu, le chef de l'État, s'est voulu à la fois optimiste et quelque peu menaçant.
La voie suivie est la bonne, assure Emmanuel Macron, mais le chef de l'État estime qu'il est trop tôt pour crier victoire. Il fixe une première étape pour juger de l'efficacité du déconfinement, le week-end prolongé de la Pentecôte, fin mai, début juin, et il prévient les Français qu'un reconfinement sera toujours possible si la situation sanitaire venait à se dégrader dans les prochaines semaines. D'où cette fin de non-recevoir ce midi de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, adressée à la maire de Paris, Anne Hidalgo. L'ouverture des parcs et jardins de la capitale est à ce stade inopportune. Le président de la République n'élude pas non plus la question des vacances d'été et des déplacements sur le territoire national comme à l'étranger. Cela fera, dit-il, l'objet de discussions et d'une coordination européenne. Aux soignants, la patrie reconnaissante. C'est le message de ce Conseil des ministres. Un hommage national leur sera rendu le 14 juillet. Sous quelle forme ? On ne le sait pas encore, des soignants qui pourront recevoir de manière individuelle ou collective une médaille de l'engagement face aux épidémies, une distinction créée en 1884 après l'épidémie de choléra, remise au goût du jour. Pas sûr que ces rubans calmeront l'impatience des personnels hospitaliers qui attendent toujours le versement d'une prime promise par le gouvernement. Elle sera versée sur les payes de mai ou juin, assure Sibeth Ndiaye. Le décret est sur le point d'être signé.
Pierre Neveu, merci. En attendant le déconfinement, l'économie française souffre. Le chômage partiel concerne désormais 12,4 millions de salariés, 300 000 de plus en une semaine. Mais cette hausse ralentit et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, va même jusqu'à évoquer un palier annonciateur de la reprise, Annabelle Grelier.
Avec la reprise d'activité, le nombre de salariés au chômage partiel devrait maintenant décroître. Les commerces rouvrent peu à peu, un chantier sur deux a repris et l'industrie tourne à 60%. Alors comment encourager et accélérer la reprise, s'interroge le gouvernement. Il envisage de réduire progressivement la part du remboursement aux entreprises, environ 10%, et ce dès le mois de juin. Rappelons que les salariés du privé mis au chômage partiel bénéficient actuellement d'une garantie de 84% de leur salaire net que l'État et la L'assurance chômage rembourse intégralement à leurs employeurs. Une aide considérée comme plutôt généreuse en Europe, comparée à l'Italie, qui a plafonné le montant de l'aide à 1200 euros, ou encore à l'Allemagne, qui l'a limitée à 60% du salaire net. Pourtant, le MEDEF estime que ce serait une erreur. Les entreprises tournent au ralenti et Geoffroy Roux-de-Bézieux de réclamer le maintien du dispositif au moins jusqu'à l'été, au risque, prévient-il, de se voir se transformer le chômage partiel en chômage tout court. Une autre piste serait à l'étude, limiter le dispositif de chômage partiel aux secteurs les plus sinistrés. C'est Édouard Philippe qui devra trancher la question. Le Premier ministre doit rendre sa décision d'ici quelques jours.
Annabelle Grelier, merci. Cette crise du coronavirus est en train de rebattre les cartes dans le domaine économique et nous en parlerons tous les mercredis dans le journal de 18h dans le cadre d'un nouveau rendez-vous, l'écho d'après. Pour inaugurer ce nouveau rendez-vous, nous abordons aujourd'hui la question des réindustrialisations. Avec vous, Marie Viennot, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Marie, la pénurie de masques illustre les limites d'un système qui prévoit l'importation de certains biens stratégiques ou essentiels. Il y a eu aussi l'arrêt d'une partie de la production en Chine cet hiver. Tout cela sème le doute sur la rationalité économique d'une délocalisation à tout craint. Marie, où en est-on aujourd'hui ? Où en sont les réflexions sur ce sujet ?
Bien, elles étaient déjà là, les réflexions. On parle du Made in France depuis des années et le gouvernement devait lancer en 2020 un pacte productif pour justement réindustrialiser la France. La nouveauté depuis le coronavirus, c'est que les objectifs poursuivis ont évolué. Jusqu'à maintenant, le but de la réindustrialisation était triple, créer des emplois, rééquilibrer notre balance commerciale très déficitaire et tenter de ne pas rater le train des industries innovantes, type 5G, batteries, véhicules autonomes, etc. Il y en a un craint de plus dorénavant l'indépendance. Indépendance pour des biens qui peuvent être utiles mais pas très innovants, typiquement les masques, et indépendance dans la chaîne de production et de sous-traitance. Cette volonté d'indépendance, elle s'affiche désormais très fort au plus haut sommet de l'État. Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française et plus d'autonomie stratégique pour notre Europe, ce sont les mots du président français à la mi-avril. Et ce qui a pu changer aussi, c'est qu'ayant éprouvé les dangers de la dépendance aux produits made in ailleurs, les Françaises et Français exercent une pression plus forte sur les politiques pour les règles de libre-échange, voire qu'ils et elles changent de mode de consommation. Alors on part de très loin. Actuellement, 64% de la consommation finale des ménages est importée, et pour les principes actifs des médicaments et le textile, on est proche de 80%. Ce serait quoi alors l'indépendance industrielle? Pour quels produits? Serait-elle à ce point créatrice d'emplois? J'ai posé la question à David Kousker, il est patron de Trendéo, un institut qui tient un inventaire très précis des projets industriels en France.
Tout le monde a eu peur pour l'approvisionnement en tel ou tel produit, telle ou telle pièce stratégique, et s'est dit, tiens, c'était peut-être pas une bonne idée de faire produire ça très loin ou d'avoir une chaîne de production trop complexe, alors que modulo quelques arrangements et éventuellement un surcoût plus ou moins important, on aurait pu produire ça en France et donc avoir ça à disposition plus facilement. Donc chacun, filière par filière, aura probablement ce type de réflexion en tête. Par ailleurs, c'est pas forcément corrélé avec l'importance économique, c'est-à-dire qu'il peut avoir manqué une pièce particulièrement importante dans l'ensemble d'un process de production, mais cette pièce en elle-même peut représenter un enjeu en emploi ou en valeur relativement faible. On voit qu'il y a des choses autour du Made in France depuis des années. Il y a des choses qui se dessinent un petit peu dans le textile. C'est probablement là-dedans qu'il y a le plus d'emplois éventuellement à relocaliser. Mais jusqu'où ça a un intérêt économique de produire en France à un prix plus élevé versus importer, c'est un débat à avoir filière par filière. Donc ce sont deux réflexions parallèles et qui n'ont pas forcément de lien entre relocaliser certaines productions stratégiques et puis l'impact en emploi qu'on peut attendre d'un processus de relocalisation plus global.
Et également la question de finalement qu'est-ce qu'on doit produire, qu'est-ce qu'on doit stocker?
Absolument. Les masques se stockent bien, donc est-ce que ça vaut la peine de tout produire? Par contre, si on s'engage à stocker, il ne faut pas faire disparaître cette politique de stockage et continuer à ne pas produire, parce que ça expose aux difficultés qu'on connaît en ce moment. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi l'intérêt d'un ministère éventuellement ou d'un secrétaire d'État à l'industrie, c'est de tenir les comptes de ses engagements sans être forcément directif, mais au moins de savoir à peu près où on en est, produit par produit, secteur par secteur, sur certains engagements ou sur certains points clés.
Alors pour que cela change réellement, cela prendra des années, une génération même, écrit la Commission européenne dans la stratégie pour une nouvelle politique industrielle qu'elle a publiée en mars dernier. En France, le Conseil national de l'industrie placé auprès du Premier ministre planche en ce moment sur un plan d'action qui sera prochainement soumis au gouvernement et intégré au plan de relance qui devrait être présenté en septembre. Gabriel Colletis, un économiste, propose lui que les citoyens soient associés à ces réflexions de souveraineté productive comme pour la Convention citoyenne sur les climats, mais serions-nous à ce point intéressés d'y participer? C'est aussi une question ouverte pour le monde d'après.
Marie Viennot, merci. À lire sur franceculture.fr votre article qui pose cette question en titre « En marche vers quelle réindustrialisation ?» Avec la fin du confinement, les acteurs de la lutte contre le sida lancent une grande campagne de dépistage. Ils estiment que les Français vont renouer avec une activité sexuelle plus intense. Ce serait donc le moment de vérifier si l'on est porteur du VIH. Les précisions de Tara Schlegel.
Mettre un coup d'arrêt à l'épidémie de sida, tel est le défi que lancent les associations, car c'est le moment de se tester. Le confinement a forcément freiné le VIH. Aurélien Bocan préside AIDE.
Les premières semaines où la personne est infectée, c'est là où elle va être le plus contagieuse, parce qu'il y a une multiplication du virus dans le corps. Donc on peut imaginer que pendant ces deux mois, vu qu'il y a eu moins de partenaires sexuels, moins de risques d'infection, on a pu contribuer à briser quelque part une chaîne des contaminations.
Et la meilleure solution, ce sont les autotests.
Les autotests, c'est très c'est simple, hein, c'est un test qu'on vous envoie chez vous. Vous prenez une goutte de sang au bout de votre doigt, vous le posez sur une petite tablette avec un réactif, et puis en 10 minutes, vous avez un résultat qui vous dit si vous êtes porteur du VIH ou pas.
Connaître son statut est évidemment essentiel, et dans l'euphorie du déconfinement, les militants ont un peu peur que le VIH soit oublié, d'où le nom assez cru qu'ils ont choisi pour leur campagne. Aurélien Beaucan.
Ça s'appelle déconfinement du cul, alors effectivement c'est un mot choc, mais au moins ça marque les esprits et ça envoie en tout cas un beau message aux personnes qui ont envie de se faire tester, tout simplement parce qu'une personne qui passe un test VIH connaît son statut sérologique, et si d'aventure il s'avère que ce test est positif, donc elle vit avec le VIH, elle aura accès à un traitement, donc elle va pouvoir protéger les autres aussi, puisqu'une personne qui vit avec le VIH et sous traitement ne transmet plus le virus.
Et contrairement à une idée reçue, 56% des nouvelles contaminations en 2018, les chiffres sont un peu anciens, se sont passées lors de relations hétérosexuelles.
Tara Schlegel, retour à l'actualité politique pour finir ce journal. L'Assemblée a définitivement adopté cet après-midi la loi contre la haine en ligne, une loi polémique dont le parcours chaotique a connu un nouveau rebondissement hier. Celle qui porte le texte, la députée LREM Laetitia Avia, est mise en cause dans un article de Mediapart. Il y est question d'humiliation à répétition et de propos à connotation sexiste, homophobe et raciste à l'encontre d'anciens collaborateurs. Le reportage de Rosalie Lafarge.
Porter la lutte contre les contenus haineux et être accusé de tenir des propos haineux, délicate position pour la députée LREM. Mais Laetitia Avia peut d'emblée compter sur un petit mot de la ministre, Nicole Belloubet.
Je ne peux donc que saluer cette proposition de loi et son auteur.
Mais surtout sur le soutien plein et entier du secrétaire d'État, Cédric O.
Ce que je sais aussi, c'est que ça fait un an que je travaille quasiment quotidiennement avec Laetitia Avia. Et que laisser penser qu'elle puisse être raciste ou homophobe est un non-sens absolu.
Et c'est visiblement ému que Laetitia Avia prend ensuite la parole.
La lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, c'est mon combat politique et ce sera probablement le combat de toute ma vie.
De l'affaire, il n'est quasiment plus question dans l'hémicycle cet après-midi, au-delà d'une mini-référence de la France insoumise ou de cette allusion de Marine Le Pen pour le Rassemblement national.
Madame Avia, si je vous appelle Madame Tartuffe, est-ce un contenu
merci,
haineux
madame.
Ou est-ce une référence littéraire
merci,
à votre hypocrisie qui fait que vos actes sont souvent en désaccord avec vos discours
madame. À part cela, l'essentiel des débats se concentre sur le fond. Mais le dossier n'est pas refermé pour autant. Laetitia Avia se défend sur les réseaux sociaux. Elle dénonce un tableau mensonger, parle de messages privés, détournés et décontextualisés, ce que réfute l'auteur de l'enquête de Mediapart, David Perrotin.
C'est 3 mois d'enquête, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on peut lire dans l'article qui est assez long et étayé, mais il y a aussi tout ce qu'on a en dehors. On a des notes vocales, des enregistrements. Il s'agit de témoignages recoupés, circonstanciés. C'est pas du tout juste quelques messages décontextualisés.
La députée de 34 ans, porte-parole d'En Marche, assure qu'elle va porter plainte pour diffamation.
Rosalie Lafarge, merci. Le temps demain, instable au sud et plus lumineux au nord. Il pleuvra des Pyrénées au Massif central. Température minimale entre 3 et 16 degrés. L'après-midi, le thermomètre évoluera entre 12 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.